On en a beaucoup parlé ces dernières heures, c'est un peu le sujet qui tient en haleine en ce moment, le tueur présumé de Toulouse, hein, qui n'a toujours pas été arrêté, semble-t-il. Mais les enquêteurs ont quand même réussi à remonter jusqu'à lui, notamment grâce à une adresse IP, c'est-à-dire l'identité de son ordinateur. Et on va voir ce matin avec vous, Yana Medro, comment on peut traquer un criminel potentiel en se basant sur les nouvelles technologies.
Oui, dans le cas de Toulouse, les enquêteurs ont dit avoir épluché toutes les adresses IP, donc tous les ordinateurs qui se sont connectés à l'annonce sur Internet de la première victime, une annonce de vente d'un scooter, et parmi ces adresses figurait celle de la mère du tueur présumé. Un indice de plus donc pour les enquêteurs qui connaissaient déjà le suspect puisqu'il figurait sur une liste des services du contre-terrorisme.
Mais comment ces enquêteurs ont fait pour faire coïncider cette adresse Internet à la mère du suspect?
En fait, ils ont regardé qui était derrière la machine, une méthode d'identification par une trace numérique que nous explique Solange Garnaouti-Elie. Elle est professeure à HEC Lausanne et experte en cybersécurité.
Alors, c'est un peu comme avec les traces ADN. Vous savez, on laisse des empreintes de notre présence sur les réseaux, sur les systèmes informatiques. Et à partir de ces traces numériques qui sont stockées, enregistrées par les fournisseurs de services et notamment aussi par les fournisseurs d'accès Internet, on arrive à récupérer, à demander l'identité des personnes à qui appartient le système pour cette connexion Internet.
Est-ce que les fournisseurs d'accès à Internet ont obligation de coopérer avec la police, de leur donner l'identité des personnes qui se trouvent derrière cette adresse ?
Oui, tout à fait. C'est complètement cadré par le droit et par la loi. Donc, il y a obligation par les fournisseurs d'accès sur demande d'un juge, sur une requête policière, de fournir ces informations. Ils ont d'ailleurs l'obligation de stocker toutes ces informations de connexion et de trafic durant une année.
Mais est-ce que les criminels ne peuvent pas maquiller tout simplement ces adresses IP, Yann ?
Si, bien sûr, plusieurs techniques existent pour se connecter anonymement. Dans le cas de Toulouse, il pourrait donc s'agir d'un manque de vigilance digne d'un amateur, selon les experts informatiques, pour qui il est en fait très facile de brouiller les pistes, comme le rappelle Solange Garnaouti-Elie.
Alors, brouiller les pistes, c'est assez facile sur Internet, dans la mesure où on peut passer par plein d'intermédiaires techniques, par plein de logiciels, par plein de systèmes et par différents pays. Donc là, en rebondissant de système en système, de pays en pays, de fournisseur d'accès en fournisseur d'accès, on arrive à brouiller les pistes. C'est une première façon de faire assez simple. Sinon, il y a des logiciels qui permettent d'anonymiser les connexions, de changer d'adresse, de brouiller. On peut aussi usurper les adresses IP, les paramètres de connexion de son voisin, par exemple, et donc faire des usurpations d'identité, pas être tenu responsable des actions malveillantes.
Ouais, je me disais aussi que ça, c'était un peu trop facile d'avoir une adresse IP et hop, on retrouve l'auteur d'un délit. Mais bon, du coup, ça rend effectivement le travail des enquêteurs plus compliqué. Qui fait ce travail d'enquête sur Internet, sur les réseaux, Yann ?
Alors, ça peut être des policiers spécialisés qui travaillent sur des cas de cybercrime, notamment en matière de pédophilie ou d'arnaque sur Internet, mais aussi de plus en plus des enquêteurs classiques qui ont appris et qui apprennent à maîtriser les nouvelles technologies.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut quand même comprendre toute la méthodologie, tout le droit procédural. Enfin, être un vrai investigateur. Être un investigateur dans le monde numérique demande une double compétence, celle du policier et celle de la maîtrise des outils technologiques. Alors souvent, on voit aussi des équipes doubles avec des policiers classiques associés à des experts en informatique ou en sécurité informatique pour offrir cette expertise technologique qui leur est propre. Et là, en fonction des forces de police, de l'organisation et des besoins, ça peut être des gens qui sont regroupés dans des cellules ad hoc spécialisées, ou alors ça peut être aussi des policiers qui ont développé leurs propres compétences en informatique et qui vont travailler dans ce contexte-là.
Et comment devient-on cyberpolicier ? Il y a une formation ?
Oui, il y a une formation, comme pour tous les métiers. Plusieurs parcours sont possibles, notamment en Suisse, comme le rappelle Solange Garnaouti-Elie.
Ça serait faire des écoles d'ingénieurs qui proposent des bonnes formations en informatique et également des formations doubles dans les domaines de justice et police, les formations de policiers également. Ce qu'il faut voir, c'est que ces policiers peuvent être aussi issus de l'école de sciences criminelles de l'Université de Lausanne, par exemple. Nous formons dans un master commun à HEC et la faculté de droit et de sciences criminelles sur ces compétences-là également. Des formations existent, elles sont plus ou moins ponctuelles, relativement récentes. Notre master existe depuis une dizaine d'années. Il y a d'autres formations qui existent aussi de par le monde. Interpol va ouvrir, par exemple, l'année prochaine à Singapour un centre spécialisé en cybercriminalité avec des polices et des policiers hyper compétents.
Et comment travaillent-ils ces cyberpoliciers ? Ont-ils des techniques spéciales ?
Ils ont, comme on l'a dit, des compétences informatiques particulières, mais le béaba du métier, les techniques d'investigation restent plus ou moins les mêmes.
Alors, les techniques passent par une maîtrise de l'informatique et des réseaux, des logiciels particuliers de surveillance, d'analyse de trafic, de remontée d'alerte et puis d'investigation numérique. Avec, il y a des méthodes, des procédures et des outils qui permettent de le faire. Et c'est de l'informatique.
Donc ça, c'est la surveillance. Est-ce qu'on peut imaginer aussi de l'infiltration numérique ?
Oui, tout à fait. Les techniques classiques policières ont été transposées dans le cyberespace. On a affaire à des criminels qui utilisent des nouvelles technologies ou pas des nouvelles technologies. Ce sont toujours des criminels avec des modes opératoires assez classiques. En revanche, ils ont su tirer parti de toutes les potentialités offertes par les télécoms et l'informatique, notamment pour Internet, pour réaliser des délits. Donc on va utiliser ces mêmes techniques informatiques pour les poursuivre et la même philosophie de traque criminelle habituelle.
Donc concrètement, sur l'infiltration, ça pourrait donner quoi ? C'est l'infiltration sur des blogs, sur des réseaux sociaux ?
Oui, tout à fait, oui. S'infiltrer en faisant passer pour un utilisateur normal, un correspondant normal. Quoi. C'est de la traque comme on voit dans les films.
Alors c'est vrai que le monde numérique a vraiment envahi, nous a envahi notre espace. Mais est-ce qu'en utilisant justement ces données numériques, on va forcément boucler plus rapidement une enquête, Yann Amenro ?
Tout va dépendre de l'enquête, de son contexte. On a vu dans le cas de Toulouse que cette information sur l'adresse de l'ordinateur de la mère du suspect a permis d'accélérer l'enquête, mais d'autres éléments existaient déjà, notamment des témoignages et puis les moyens mis en œuvre sont assez exceptionnels. Cette trace numérique n'est donc qu'un élément parmi d'autres et elle n'est pas non plus infaillible, comme le souligne Solange Bernaouti-Elli.
Il faut faire vraiment attention avec ces traces numériques qu'on laisse dans les téléphones, les GPS, l'Internet. C'est qu'on peut se tromper. Hein. C'est comme avec l'ADN. On peut les truander, on peut les voler, on peut les maquiller. Vous voyez, ces traces-là. Donc on peut faire porter la responsabilité du délit sur plein de personnes innocentes. Et ça, c'est ce qui va aussi se passer de plus en plus. Donc il faut être absolument vigilant à la qualité de la véracité de la trace laissée. Et je crois que c'est pas uniquement sur la base d'une information numérique, d'une adresse IP, d'une adresse email ou d'une navigation Internet ou d'un coup de fil passé qu'on peut inculper quelqu'un. Il faut vraiment recouper ces informations. C'est des informations additionnelles qu'on va trouver sur Internet, sur les téléphones ou ailleurs, qui vont permettre par recoupement d'avoir plus ou moins un certain niveau de certitude. Que oui, c'est bien la personne qui a utilisé, qui a réalisé le crime.
Ah ben oui, c'est vrai qu'on laisse tellement de traces maintenant partout, des traces numériques, que ça vaut bien effectivement qu'on investigue dans ce domaine-là. C'était les explications de Solange Gernaouti-Elli, professeure à HEC Lausanne, experte en cybercriminalité. Merci beaucoup Yann Amenro.
Merci.
Une chronique.